La semaine pour les alternatives aux pesticides est née il y a maintenant 8 ans, en fait, du constat que les alternatives aux pesticides méritaient d'être mieux mises en avant, hein, à l'époque où finalement on parlait peu ou pas assez, en tout cas, des possibilités de faire autrement, de se passer de ces produits que sont les pesticides. Et donc on a eu cette idée avec un collectif d'associations. À l'époque, on avait créé l'ACAP, hein, l'association citoyenne pour les alternatives aux pesticides. Et l'idée est venue assez naturellement de se dire comment on pourrait, pendant une semaine, valoriser toutes ces alternatives, toutes ces choses qui sont mises en place dans les différents secteurs d'utilisation, que ce soit au niveau agricole, au niveau du jardin, des collectivités, à la maison, etc. Et donc, on s'est dit, voilà, faire une semaine, c'est une bonne idée, sachant qu'évidemment, après, tout au long de l'année, chaque structure qui est partenaire de la semaine organise des choses, mais l'idée, c'était de faire un focus, de concentrer sur cette semaine, pour dire aussi pourquoi il faut s'en passer. Donc, il y a des conférences, des projections de films, etc., qui expliquent pourquoi ces produits sont dangereux pour la santé et l'environnement. Et puis, après, des ateliers pratiques, des fermes ouvertes, des visites de jardins, etc., et pour expliquer comment on peut se passer de ces produits.
Donc ça fait 10 ans que ça existe. Est-ce que les mentalités ont changé ? Comment vous évaluez ça au niveau du collectif ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une évolution. Moi, si je remonte 10 ans en arrière, on parlait pas jusqu'à, je dirais, au moment du Grenelle, surtout de la réduction d'utilisation des pesticides. Il n'était pas envisageable de réduire l'utilisation des pesticides. C'était tabou. Ça, c'est un tabou qui est tombé. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une évolution quand même des mentalités à ce niveau-là. Une prise de conscience aussi de la dangerosité des produits, ce qui n'était pas forcément le cas même dans le milieu agricole. Aujourd'hui, voilà, il y a des associations qui se créent pour défendre les professionnels qui sont victimes des pesticides, des particuliers aussi qui s'organisent pour défendre les particuliers qui vivent au milieu des champs et qui sont victimes des pesticides. Donc il y a une vraie prise de conscience, une évolution lente, c'est clair. Hein. Quand on parle des alternatives aux pesticides, il faut savoir que l'abus en France, ça représente toujours que 1 à 2%, donc ce qui est absolument ridicule par rapport à la surface agricole de la France. Donc il y a encore beaucoup à faire. On continue d'utiliser beaucoup de pesticides. D'ailleurs, le plan Ecophyto qui prévoit de réduire de 50% l'usage aujourd'hui, il est en échec puisqu'on a augmenté justement ces usages. L'indicateur qui mesure ça est à plus de 2% depuis le lancement d'Ecophyto, donc il y a encore beaucoup à faire. Ceci dit, ça a sorti quand même certains chercheurs de l'INRA qui travaillaient sur d'autres systèmes un peu des placards, donc ils ont pu se mettre en avant, montrer que c'était possible de faire autrement aujourd'hui, et à l'échelle d'un pays, hein, il y a des systèmes qui le démontrent, pour peu qu'on se donne les moyens. Alors le souci encore aussi, c'est que la future politique agricole commune ne prend pas le chemin vraiment d'un verdissement, donc d'un changement des pratiques profonds vers une agriculture durable. Par exemple, on continuera à donner des primes, même aux agriculteurs qui ne mettent pas en place des rotations. Et ça, c'est juste une aberration agronomique. Si on veut se passer des pesticides, il faut au minimum faire de la rotation des cultures pour pas laisser les ravageurs s'implanter sur une terre. Donc en effet, là, pour le coup, il y a toujours énormément de travail à mener. Cette semaine pour les alternatives aux pesticides, elle est là aussi pour ça. Je veux dire, le monde agricole participe à la semaine, les bio évidemment en premier chef, mais aussi les agriculteurs qui sont par exemple à la Confédération paysanne, qui sont pas forcément tous bio, mais qui montrent que eux, ils font évoluer leur système et qu'ils utilisent vraiment parfois les pesticides en dernier ressort et qui montrent que c'est possible de s'en passer, quoi.
Alors justement, on entend beaucoup, que ce soit au niveau politique, au niveau du monde agricole aussi, le fait que, voilà, sans pesticides, on ne pourra pas nourrir la planète. C'est souvent l'argument qui revient. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Ah, ça, c'est juste une aberration. En fait, le truc, c'est que l'agriculture intensive, elle nourrit pas la planète. La famine, c'est pas lié à... Enfin, c'est lié évidemment au type de modèle agricole, mais c'est surtout lié au problème d'infrastructure dans les pays dans lesquels il y a de la famine. Donc, et nourrir le monde, moi, je pense pas que la France ait vocation à nourrir la planète. Regardez la taille de la France à l'échelle du monde, c'est ridicule. Donc, faut un peu être réaliste. Au contraire, il y a des chercheurs, des agronomes. Pour ne citer que lui, Marc Dufumier, qui a sorti de très bons bouquins là-dessus, qui montre que c'est l'agroécologie et l'agriculture durable, de type agriculture biologique, qui nourrira le monde. Et de toute façon, dans ces pays en voie de développement, ils n'ont pas les moyens de se payer ces produits qui sont très chers et qui sont en plus nocifs pour leur santé et pour l'environnement. Donc, au contraire, développons l'agroécologie. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ces secteurs-là. C'est possible. Olivier de Schutter, qui était le représentant à l'ONU des Nations Unies sur la politique alimentaire, a lui-même dit que l'agroécologie, c'est elle qui nourrira le monde et pas l'agriculture intensive industrielle qu'on veut nous imposer aujourd'hui.
Je reviens sur les pesticides. L'association Génération Future vient de sortir une étude sur plus précisément les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est déjà que ces perturbateurs endocriniens ?
Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui interfèrent avec le système endocrinien, comme leur nom l'indique, et qui peuvent interférer avec certaines hormones et donc induire des conséquences néfastes pour le développement, par exemple surtout des fœtus, hein, ou des jeunes enfants, et donc qui peuvent, par exemple, réduire les capacités cognitives, ce genre de choses. Et donc il est important de lutter contre ces perturbateurs endocriniens parce que pour ceux-ci, c'est pas la dose qui fait le poison, mais ça va être la période d'exposition, la multiplicité de différentes sources d'exposition. et la durée d'exposition. Et donc, nous, ce qu'on a voulu montrer avec cette enquête qui est sortie en effet ce jour, c'est qu'on est entouré d'insecticides perturbateurs endocriniens qu'on ingurgite par voie alimentaire, puisqu'on a fait analyser des céréales, mais auxquels on est exposé aussi par voie non alimentaire, quand on utilise chez soi des bombes insecticides ou quand on va au jardin mettre de l'insecticide, quand on a des chiens, des chats qu'on pulvérise contre les tiques et les puces, ou même quand nos enfants ont des poux, certaines lotions ou encore aujourd'hui des insecticides perturbateurs endocriniens. Et donc nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est essayer d'avoir une image un peu fixe d'un instant T, d'une famille lambda qui, elle, pourrait être du coup exposée à ces différentes sources, pour dire aujourd'hui stop, il faut retirer du marché ces pesticides et ces insecticides qui peuvent être perturbateurs endocriniens, et justement promouvoir les alternatives, d'où l'intérêt de la semaine pour les alternatives aux pesticides.
Parce que ces produits-là, enfin en tout cas ces perturbateurs, on les trouve dans beaucoup de produits, vous le disiez, c'est pas seulement dans l'agriculture.
Ah oui, tout à fait, ce sont des produits qu'on trouve dans la consommation courante. D'ailleurs, par exemple, les produits de jardin qui sont des pesticides sont les mêmes molécules qu'on utilise en agriculture. Alors, certaines caractéristiques molécules sont interdites au jardin, mais on retrouve quand même des cancérigènes suspectés, on retrouve quand même des perturbateurs endocriniens suspectés. Donc, en effet, on est exposé, alors de manière moins accrue que les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'ils en manipulent tous les jours, ou presque, et puis de manière régulière, beaucoup plus que nous. Mais malgré tout, on est aussi, nous, exposé à ces substances-là.
Alors, comment faire pour essayer de faire bouger les choses? Quelles sont les prochaines échéances?
Alors, cette année, il y a des enjeux importants autour de cette problématique des perturbateurs endocriniens. Il y a la prochaine stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens qui se discute en ce moment, et en juin on doit remettre un rapport au gouvernement sur cette stratégie. Donc il est temps de demander à nos élus, à nos représentants, de leur demander de justement de prendre des mesures de précaution et de supprimer ces perturbateurs endocriniens. L'Union européenne doit se mettre d'accord aussi sur une définition de ce que sont les pesticides perturbateurs endocriniens. En tant que citoyen, on doit alerter son eurodéputé et lui dire je ne veux pas de perturbateurs endocriniens pour mes enfants et pour l'avenir. Et d'ailleurs on a avec des collègues d'Agir pour l'environnement, pour cette semaine, lancer des cartes pétitions où on peut écrire au ministre de la Santé et de l'Agriculture pour lui demander de mettre en place des mesures justement de restriction d'un certain nombre d'usages de pesticides au sens large. Et il y en a une autre à venir qui sera très certainement plus spécifiquement sur les perturbateurs endocriniens avec des demandes très précises où chaque citoyen pourra s'emparer de ces cartes pétitions et alerter les instances sur ces dangers.
Radio Solidaire, la radio responsable.